L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Thierry Todinor, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant, et maître Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Avec eux, à l'occasion de leur participation à un voyage dans le Donbass libéré avec une équipe de journalistes internationaux, nous allons faire le point sur ce qu'ils ont constaté de visu dans ce territoire, sur les discussions qu'ils ont eues avec les habitants et sur l'évolution de la situation sécuritaire, humanitaire et économique en vue du rétablissement des conditions de vie pour les citoyens. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le 22 janvier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement les attaques contre les civils et les infrastructures civiles. La veille, un bombardement par les forces ukrainiennes d'un marché de la ville de Donetsk, dont le Donbass, avait fait au moins 25 morts et blessé plus de 20 autres personnes, selon son porte-parole. Cet événement a été traité, à l'instar d'autres d'ailleurs, par la presse occidentale comme une conséquence directe de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine qui a débuté le 24 février 2022. Une façon, évidemment facile, d'imputer la responsabilité de ce drame à la Russie, même d'une façon indirecte, étant donné qu'elle est désignée comme le pays agresseur. Or, l'opération spéciale militaire russe a été déclenchée en réponse à une politique d'encerclement et d'endiguement menée par l'OTAN depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. Mais surtout, et c'est la goutte qui a fait déborder le vase, à cause de la guerre entamée par le régime de Kiev contre les populations du Donbass. Ces dernières ont rejeté les lois discriminatoires et racistes promulguées à leur encontre durant 8 ans d'opérations militaires et de bombardements. Pas moins de 14 200 morts ont été recensés par l'ONU, dont des civils, des militaires ukrainiens et des membres de groupes armés d'autodéfense. Fin septembre 2021, les régions de Zaporojye, Kherson, Lugansk et Donetsk ont revendiqué la victoire du oui en faveur de l'indépendance et du rattachement à la Fédération de Russie. Depuis, le gouvernement russe a mis sur pied une politique de reconstruction des régions libérées et pacifiées. Malgré l'état d'avancement de la reconstruction, les dégâts de la guerre, aussi bien sur les populations que sur les habitations et les infrastructures, sont toujours visibles. Pour faire le point sur cette situation et éclairer ce qui s'est passé réellement, notamment pour nos auditeurs africains, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Thierry Todinor, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant, et maître Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Ils viennent juste de rentrer du Donbass, où ils ont effectué une mission d'information avec un groupe de journalistes internationaux. Thierry Todinor et maître Arnaud Develay, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Bien. Alors, la plupart des populations occidentales ont découvert le conflit en Ukraine qu'à partir du 24 février 2022 et date du début de l'opération spéciale militaire russe dans ce pays. Or, pour les populations du Donbass, le début de la descente aux enfers a commencé depuis 2014, juste après le coup d'État de Maïdan orchestré par les États-Unis et l'OTAN. Alors, comment expliquez-vous le blackout des médias occidentaux quant à ce qui s'est passé durant 8 ans dans le Donbass, y compris quand les accords de Minsk avaient été conclu avec la bénédiction du Conseil de sécurité de l'ONU.
Oui, bah, réponse rapide, comme vous l'avez dit tout à l'heure, simplement, cette réalité contredit à angle droit le storytelling, qui est le suivant, c'est que l'Ukraine pacifique est menacée par un méchant voisin. Et c'est exactement le contraire qui s'est produit, puisqu'il s'agit d'un pays militarisé, une population civile du Donbass qui s'est insurgée et qui a été largement soumise à des bataillons de répression. Juste pour donner une idée du contexte dans lequel nous on est allés là-bas, c'était après l'attentat sur Donetsk,
Le marché
voilà,
de Donetsk.
Voilà, on était entre cet épisode-là et ce qui s'est passé tout récemment à Lysychansk, où à nouveau des civils ont été visés et on a un HIMARS qui a été tiré sur des civils. Donc ce qui s'est passé en 2014, le Donbass s'insurge. L'armée ukrainienne n'est pas très partante, pas très motivée pour faire de la répression, ce que les Ukrainiens ont appelé la campagne antiterroriste, et donc on confie à des groupes néo-nazis qui avaient déjà fait le coup de poing à Kiev au moment de du coup d'état du Maïdan, de se charger de la répression. Voilà. Tout ça ne peut pas être dit. Tout ça ne peut pas être dit parce que l'Ukraine est une victime. Il n'est pas question donc de revenir sur ce narratif. Voilà.
À vous, maître Develay.
Ah ben, j'ajoute rien à redire sur ce que Thierry vient de dénoncer. J'ajouterais juste que bien sûr, 2014, c'est le début. Enfin, il y a un saut qualitatif dans les opérations au niveau géopolitique. Mais qu'effectivement, dès 2004, déjà, il y a un premier échelon qui est mis en place et qui, petit à petit, prépare le terrain pour 2014. Et 2014 prépare le terrain pour ce qui s'apprêtait à avoir lieu selon l'agenda ukrainien, OTAN, en mars 2022, jusqu'à ce que Vladimir Poutine, comprenant la situation, décide d'intervenir et de contrecarrer le plan tel qu'il était prévu. Mais on a les plans ont été capturés par l'état-major russe, donc on sait de manière certaine ce qui était prévu, et c'était prévu pour la mi-mars 2022. Mais effectivement, c'est quelque chose qui s'inscrit. Après, si on regarde un petit peu les choses en perspective depuis la fin de l'Union soviétique, l'effondrement de l'Union soviétique, où dans le contexte, alors après, certains géopoliticiens me reprendront éventuellement, mais c'est le concept de Mackinder, c'est le concept aussi de, comment il s'appelait,
surtout la doctrine Wolfowitz.
Ça s'imbrique en fait. Il y a plusieurs filtres qui s'embriquent les uns les autres. Et Brzezinski aussi, bien sûr, grand échiquier. Donc l'idée étant que l'Ukraine, c'est le bélier qui permettra de soumettre la Russie et in fine, à terme...
La démembrer,
voilà.
D'accord.
Et aussi, pour faire une petite digression, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, c'est pas l'Union soviétique qui s'effondre, c'est l'Occident qui est en cours d'effondrement. Et donc, dans cette guerre hybride qu'il a déclenchée, le narratif médiatique est une arme essentielle.
D'accord. Et évidemment, effectivement, nous avons vu ça depuis le début de l'opération spéciale. On avait l'impression que les gens pensaient qu'ils pouvaient gagner une guerre sur les plateaux de télévision ou dans les plateaux de radio avec des experts...
Convenus, oui.
Bien. Alors, lors de votre voyage, cher monsieur... à l'inverse des journalistes et des experts des plateaux, justement, des télévisés occidentaux, qui n'ont jamais mis les pieds dans le Donbass entre 2014 et 2021, et se contenter uniquement de reprendre ce que disait le pouvoir ukrainien. Et d'ailleurs, ils ont fait la même chose depuis le début de l'opération spéciale. Alors, de très jeunes journalistes de cette région font un travail remarquable au péril de leur vie. Alors, vous avez organisé une conférence de presse avec ces jeunes journalistes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur leur état d'esprit et leur travail ?
D'abord, on a été très surpris parce que ces journalistes sont extrêmement jeunes. La moyenne d'âge d'un journaliste dans la République de Lugansk, c'est 22 ans. Et donc, ils n'ont connu de leur vie d'adulte, ils n'ont connu que la guerre. Ce qui a créé une sorte d'embarras pour moi, c'est que ils nous ont demandé ce que les occidentaux, ce que les spectateurs occidentaux pensaient de la du Donbass, de ce qui se passe au Donbass. Et c'était très compliqué on pouvait difficilement leur répondre que le téléspectateur occidental ignore tout du Donbass, y compris son existence. Et l'existence même du Donbass est une insulte au narratif occidental. Si on parle du Donbass, on est obligé de parler de ce qui s'y produit et de ce que eux prennent sur la figure, et que les occidentaux, ce dont les occidentaux ignorent tout. Donc il y avait cette espèce d'embarras, cette naïveté de ces jeunes journalistes, plein de bonne volonté, qui avaient une vraie volonté de communiquer, et qui se faisaient peut-être encore des illusions sur ce qu'est réellement l'Occident. Hein. C'est peut-être lié à leurs études. Moi j'ai vu que à l'université de journalisme de Moscou, il y avait encore une chaire d'études sur les genres. Bon, je sais pas ce que ça vient faire ici, mais ça existe.
Ouais. Bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que vous avez constaté lors de cette conférence de presse ?
Bah, effectivement, comme dit Thierry, c'était intéressant, quelque part révélateur, de voir le disconnect qui existe entre... ils sont sur le terrain, bien sûr, depuis toujours, et donc c'est leur réalité au quotidien, mais je pense que c'était quelque part un peu presque violent pour eux de dans le sens où je pense qu'on a été assez clair sur le sujet, que conceptuellement effectivement leur situation, leur ressenti, leurs expériences, faut dire les choses, dans le narratif occidental n'existe pas conceptuellement. Et donc c'était quelque chose qui, oui, ça nous a pris du temps pour on a en fait consacré une partie de notre rencontre après essayer d'expliciter en quoi et pourquoi ça a lieu et avec quels moyens il est possible de combattre ce qui est en fait une illusion, parce qu'après le réel s'impose de toute façon, et on l'a vu encore récemment, puisque il y a un journaliste allemand de la ZDF qui est quand même un gros média en Allemagne, s'est rendu à Mariupol et c'était intéressant d'observer la conversation qu'il avait avec sa collègue dans le studio, donc on peut présumer en Allemagne, et parce qu'il lui disait mais en fait c'est pas du tout ce qu'on pourrait penser, il y a des gens, donc l'idée c'était qu'il n'y a plus personne, il y a de l'eau chaude, il y a internet, il y a de la reconstruction partout, les gens vivent. Et on voyait l'expression de la journaliste en studio qui semblait un peu embêtée. Alors, est-ce que c'était une question pour elle où elle entendait un peu les instructions dans l'oreillette, tu lui disais non mais coupe, ou bon. Ce qui est certain, c'est que je pense que le journaliste de terrain, pour peu qu'il soit rentré en Allemagne, doit être déjà au chômage.
D'accord. Bien. Alors, justement, pour apporter un éclairage aux antipodes de ce que le narratif occidental a l'habitude de raconter à l'auditoire occidental. Alors, ma question maintenant concerne les gens, justement. Qu'est-ce que vous avez vu parmi les gens ? Quelle morale ils ont ? Est-ce qu'ils ont foi en leur avenir, en l'avenir de leurs enfants ? Qu'est-ce qu'ils pensent de leur vie actuellement, de la guerre ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'amputés ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été traumatisés, y compris par la torture ? Comme disait Thierry tout à l'heure, beaucoup de gens ont été victimes de ces hordes néo-nazis, d'Azov et compagnie.
Thierry ?
Alors, je pense qu'on pourrait parler de Severodonetsk, qui était à 90% détruite, et qui était une ville de plus de 100 000 habitants. Je crois qu'il en reste 40 000, mais que les gens reviennent. Et que les services essentiels, les hôpitaux, les
écoles,
les écoles sont en train de reprendre. Et les gens donc reviennent. Le contexte local, les gens, alors on n'a pas fait de micro-trottoir, on peut pas parler pour tous les gens du Donbass, mais quelqu'un disait, ceux du Donbass, on peut les tuer, mais on peut pas les vaincre. C'est un peuple extrêmement, extrêmement fier, extrêmement dur au mal. C'est un peuple, bon, qui, de mineurs et de cosaques, hein, c'est quand même pas rien. Et pour eux, comment dire? Quand il parle de fascisme, pour nous, on a le sentiment que c'est une doctrine du début du XXe siècle qui est née en Italie. C'est un peu lointain pour nous. Pour eux, l'antifascisme n'est pas une posture idéologique. C'est l'expression d'un réflexe de survie biologique, parce que le fasciste, c'est le gars qui vient vous tuer chez vous, qui vient de l'Ouest et qui vient vous assassiner. Et ils ont toujours résisté à ça, et y compris d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, où malheureusement certains travaux de répression brutale étaient effectués par les Ukrainiens de l'Ouest. Mmh. Hein? Donc c'est pas du tout le genre de peuple qui peut se laisser intimider comme ça.
D'accord. Et par rapport, maître Delay, au nombre de victimes, ou de traumatisés, est-ce que les gens commencent petit à petit à reprendre une vie normale, et à continuer à vivre?
Je pense que quand on dit normal, tout est relatif, bien sûr.
Bien sûr, oui.
Mais, comme dit Thierry, il y a une dignité, fondamentalement, au centre de la fibre de ce qui constitue un habitant du Donbass. Et c'est des gens qui n'oublient pas d'où ils viennent, et partant de là, c'est ce qui renforce qui ils sont. Mmh. Et ça nous est rappelé à chaque coin de rue, ça. Quand je dis chaque coin de rue, c'est une figure of speech, mais je veux dire, les morts d'hier s'embriquent avec les morts d'aujourd'hui. Tous martyrs pour que l'avenir soit possible. Et la culture minière, effectivement, est aussi en toile de fond quelque chose qui nous renseigne sur la dureté, enfin la
résilience.
La résilience de ces gens-là. Et c'est un peuple, oui, c'est pas des gens qui vont en même temps se plaindre ouvertement ou chouiner. Ouais. Enfin, c'est que leur douleur, elle est à leur, et ils sont très dignes dans leur souffrance. Et ils demandent pas en même temps que les gens s'apitoient sur eux. C'est à partir du moment où ils ont démontré à travers l'histoire que rien ne les défera, et que en plus de ça, non seulement ils ont gagné, mais ils ont sécurisé pour leurs enfants un avenir juridiquement au travers des référendums. On a presque l'impression que il est temps maintenant de regarder vers l'avenir. Et donc, la reconstruction, on va en parler, bien sûr. Mais ça fait partie intégrale de ça.
Juste avant de passer ça, cette question de la reconstruction, le degré de destruction des villes que vous avez vues, c'est comment?
Severodonetsk, c'était 90% de la ville qui était détruite.
Ouais. Combat les plus féroces.
Il y a encore beaucoup de ruines, mais ils ont quand même construit une nouvelle maison de la culture flambant neuve, 800 places. Bon, donc on sent que, enfin, un peuple effondré ne ferait pas ça comme ça. Pour revenir aux habitants du Donbass, je dis, Arnaud a raison de parler de résilience, c'est exactement ça. Et puis il y a aussi, je pense, un certain niveau de, on l'a pas constaté de visu, mais il y a un certain niveau d'auto-organisation, parce que comme le dit Prilépine dans son bouquin Ceux du Donbass, justement. Les classes moyennes du Donbass ont fait ce qu'aucune classe moyenne ne doit faire. c'est-à-dire échanger sa docilité contre un bon salaire. Mmh. Quand le Donbass s'est insurgé en 2014, la bourgeoisie locale s'est retirée sur Kiev tranquillement, en espérant, en pensant que elle allait être rappelée très rapidement par la population, qui en fait s'est organisée toute seule. Mmh. Hein. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est pas un peuple banal. Voilà.
D'accord.
Et j'ajouterais d'ailleurs, sur ce point, ça fait un peu la connexion avec ce qu'on disait un peu plus tôt, par rapport au narratif et le fait que conceptuellement les populations du Donbass n'existent pas dans le narratif occidental, c'est que c'est exactement ce que les élites occidentales ne veulent pas voir en Occident, se passer. C'est, en fait, c'est leur expérience et une inspiration qui... Pour peu qu'un jour les choses deviennent compliquées,
c'est un peu le précédent qu'il ne faut... que moi j'ai constaté dans mon travail, ouais, par rapport à la présence iranienne en Afrique. Parce qu'en réalité, ils disent que voilà, l'Iran, et ainsi de suite, l'ennemi et tout, mais en réalité, la chose qui les terrifie le plus, c'est cette capacité de résilience par rapport à une situation d'embargo, de guerre, qui a fait plus de 41 ans. Et... cette chance-là de révolutionnaire de...
On peut voir aussi que dans un contexte au minimum de stagnation économique et moi je dirais d'effondrement systémique en Occident, les populations ne réagissent pas du tout comme ça. Elles n'ont aucune combativité. Et puis j'ai vu récemment un sondage commandé par le Journal du Dimanche qui était absolument ahurissant. Il y a plus de 50%, je crois que c'était 54% des 18-24 ans qui veulent quitter la France. L'émigration est un sujet absolument tabou en Europe, mais ça existe.
Et bien. Alors, une dernière question pour clore cette première partie sur justement la reconstruction de ce qui a été fait. Alors, le gouvernement russe a mis sur pied des projets de reconstruction des quatre régions ayant rejoint la Russie en février 2022, au moins dans leur territoire libéré et sécurisé. Alors, pouvez-vous nous en parler? Est-ce que la vie, justement, le logement, l'hôpital, l'eau, l'électricité commencent à revenir comme avant dans ces,
Ces régions? On a vu deux situations extrêmement contrastées, hein, entre Lugansk, où la vie suit son cours normal, les gens sont calmes, détendus, l'eau courante est là, l'eau potable, l'électricité. Il y a un couvre-feu, je crois, à 23h,
bien sûr,
hein, qui reste en vigueur, mais c'est, disons, une ville quasiment normale. Et Severodonetsk, qui est encore largement détruite, mais en cours de reconstruction. Voilà. Donc, on a pu voir quelques réalisations, je pense financées par le gouvernement fédéral, hein, puisqu'on en a parlé, un hôpital flambant neuf, une maison des sports, une maison de la culture.
Mmh. Voilà, c'est ce que et le logement, est-ce qu'il y a des logements qui se construisent? Qu'est-ce que les gens disent?
Le logement, de toute façon, oui, fait bien sûr fondamentalement partie des priorités. Enfin, on a eu une conférence de presse avec le président de la République de Lugansk qui nous a expliqué que tout était fait justement pour que la vie reprenne économiquement le plus vite possible. Mais après, tout dépend aussi, il y a l'aspect militaire. Mmh. Donc il faut pas non plus faire abstraction des opérations militaires, à savoir protéger par exemple des attaques aux missiles, ce qui pourrait être reconstruit. Donc, puisqu'on parlait des régions, parce que c'est les quatre régions, la situation est bien différente les unes des autres. Donc c'est un petit peu un ajustement en fonction de la situation. Mais fondamentalement, que des hôpitaux flambant neufs soient recréés, des centres culturels pour les jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir.
Ouais.
Et donc il est fondamental qu'ils aient une vie saine, que ce soit un horizon dans leur tête au niveau de la culture, du théâtre, des activités créatrices, et une vie saine au niveau du sport, de leur corps. Mmh. Mais effectivement, on a visité un de ces centres et on nous expliquait que pratiquement pendant une décennie, ne serait-ce que l'activité de boxe, il n'y avait pas eu les moyens de d'entraîner les jeunes ou de découvrir le noble sport, le noble art, comme on dit, et que ça prendrait du temps pour former des champions localement avant de les intégrer, par exemple, dans les compétitions fédérales. Hein. Mmh. Donc ça va prendre du temps, mais moi c'est ça que je souhaiterais, le point sur lequel je souhaiterais insister, c'est effectivement donc les hôpitaux, parce que on a visité un hôpital où ils nous expliquaient que jusqu'à très récemment l'équipement était désuet. C'était de l'équipement qui datait des années 60-70, donc complètement dépassé, et que au niveau même des infrastructures au sein même de l'établissement, c'était assez précaire. Donc on comprend qu'un hôpital doit être quand même un endroit où l'hygiène est prise en compte. Donc là, ça c'est réglé, et c'est pour moi c'est ce qui semble être le plus important: les hôpitaux, les centres culturels pour les jeunes, pour qu'ils soient pas dans les rues à traîner, pour
les écoles,
qu'ils soient pas désœuvrés, voilà. Alors les écoles, oui, bien sûr, mais ça s'imbrique avec les centres culturels, les centres sportifs, et aussi pour les personnes âgées. On a vu la construction d'un édifice flambant neuf pour que les personnes âgées puissent être prises en compte. Donc toutes les générations sont quelque part prises en considération, mais voilà, c'est le plus important, c'est ça, c'est les soins. Le fait que les jeunes aient des pôles où ils puissent se rendre de manière régulière pour se reconstruire, ou pour qu'ils puissent avoir un horizon qui leur permette de se reconstruire et de se projeter vers l'avenir, et aussi pour les personnes âgées qui elles-mêmes ont été particulièrement négligées durant des années. Mais ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est que l'État unitaire qui est bien a complètement négligé les régions de l'Est de l'Ukraine à l'époque, et ce pendant 30 ans. Donc toutes les infrastructures qui pouvaient exister avant que les combats et que la guerre vienne étaient un héritage de l'Union soviétique essentiellement. Donc tout l'argent qui pouvait être sur le papier alloué au développement des infrastructures, et ça inclut aussi les routes et les ponts,
bien sûr.
Parce que quand on rentre dans cette région de la Russie maintenant, c'est vrai qu'on voit qu'on a l'impression d'un voyage dans le temps qui nous amène aux années 80. Mais vraiment. Hein. Mm-hmm. Et quand on revient, tout d'un coup, dans les zones, bien sûr, plus à l'est, on voit la différence au niveau de l'asphalte, au niveau du macadam, au niveau de... Donc, le travail est énorme, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps.
Absolument.
Et les gens en sont conscients, mais au moins, ils savent qu'ils peuvent voir, c'est visuel, c'est sensoriel, ils voient les convois arriver tous les jours.
Vous voulez dire que depuis le démembrement de l'Union soviétique jusqu'à l'arrivée de la Russie, il n'y avait pas de développement orchestré par l'État.
Et on le voit d'ailleurs même dans, j'allais dire, dans les zones où il n'y a pas eu forcément de combat. Parce qu'on voit, je pense qu'on pourrait même le voir sur un plan aérien en survolant la zone. C'est, y a pas d'artère principale nécessairement très visible. Tout est très, y a beaucoup de campagnes, beaucoup de zones qui auraient besoin d'être défraîchies. Et puis des habitations un peu avec des toits en tôle ondulés, une espèce de qu'on appelle des shanty towns. Hein. Donc oui, il y a énormément de travail à faire. Mais il faut commencer quelque part, de toute façon.
Donc, d'accord. Et par rapport à la prise en charge dans les hôpitaux, est-ce qu'il y a du personnel qui travaille et les gens sont soignés
Oui, non seulement il y a du personnel, personnel qualifié, c'est surtout ça le plus important.
Ouais.
Hein, enfin bon, il y a une rigueur dans l'éducation, la formation en Russie et même en Ukraine à l'époque. Enfin, on peut bien comprendre que le peuple ukrainien est un peuple travailleur et qui a un niveau d'éducation extrêmement élevé, surtout quand on compare avec ce qui est devenu le cursus universitaire en Occident. Hein. Oui, les gens sont pris en charge, et surtout, c'est ça qui est important, c'est que tout est gratuit, tout est pris en charge.
Alors, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mes invités, Thierry Todinor et Arnaud Develay, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mes invités sont aujourd'hui Thierry Todinor, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant, et maître Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Thierry Todinor et maître Arnaud Develay, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Bien, alors maintenant, passons à un aspect qui me semble extrêmement important de ce qui s'est passé et de ce qui se passe aussi dans cette région de la Fédération aussi, en l'occurrence la région du Donbass. Alors, lors de votre voyage, vous avez également rencontré des prisonniers de guerre et des soldats ukrainiens qui ont choisi de laisser tomber l'Ukraine et de rejoindre la Russie. Alors, comment a été cette rencontre? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce conflit et de ce qui s'est passé dans le Donbass? Et comment voient-ils leur avenir dans ces territoires libérés?
On a vu les prisonniers ukrainiens au polygone d'entraînement des forces armates. Ce sont des gens qui étaient visiblement fatigués et il s'est avéré que certains d'entre eux avaient une vie littéralement brisée. Ils considèrent tous plus ou moins être utilisés comme de la chair à canon. Et souhaite avant tout que le conflit s'arrête, bien sûr. Il y en a notamment un qui a témoigné avoir été enlevé, rapté littéralement de force pour entrer dans les forces ukrainiennes. Mmh. Alors qu'il avait une femme avec malade d'un cancer en phase terminale et un enfant de 8 ans dont il n'a plus aucune nouvelle aujourd'hui.
Et par rapport au conflit, est-ce que vous avez eu des discussions avec eux? Et est-ce qu'ils se sont exprimés sur les conditions de comment, par exemple, on leur a présenté ce conflit-là? Et quelles ont été les exigences et les conditions de combat contre l'armée russe?
Il faut comprendre une chose, c'est que pour ce qui est des gens, enfin des prisonniers de guerre qu'on a pu voir, beaucoup d'entre eux, effectivement, ne semblaient pas être des foudres de guerre. En tout cas, plus à cette conjoncture. C'était certainement pas des gens idéologisés. Mmh. Et en même temps, on sentait qu'ils avaient une appréhension de trop s'exprimer. Parce que, bon, pour beaucoup d'entre eux, ils ont de la famille. Donc l'idée, ce sera, à un moment donné, peut-être d'envisager un échange de prisonniers. Mmh. Sachant que, pour ces gens-là, quand ils rentreront, ils feront certainement l'objet d'un interrogatoire musclé du SBU, et que pour beaucoup d'entre eux, ça semble pas être une perspective qui, toute évidence,
encourage ou les rassure par rapport à...
Oui, donc c'est un peu des gens qui se retrouvent, j'allais dire, déjà, ils sont du côté, voilà, ils ont été capturés, hein, ils sont... C'est vrai, on peut penser un peu hésitant, parce qu'on les... ils sont pas présentés sous leur meilleur jour. Ça, c'est certain. Et on a pu voir ça quand on a vu le contraste avec ensuite les anciens Ukrainiens, je veux dire, qui sont maintenant russes, qui ont signé un contrat, qui ont rejoint donc les forces armées russes, où là, je veux dire, le contraste était saisissant au niveau de leur façon de se tenir, de regarder droit dans la caméra. Là, on avait affaire à des gens brisés, qui regardaient vers le sol tout le temps, qui étaient s'ils avaient pu, je veux dire, rapetisser et disparaître sous la table, ils l'auraient fait, quoi. Mmh. C'était vraiment... c'était assez quelque part triste. Hein. Mmh. Mais bon, mais c'est la guerre, ça. Et mais alors, qu'est-ce que ça sous-entend, après, quand effectivement on commence à les questionner sur... leur ressenti sur l'avenir de ce conflit et qu'est-ce qu'ils peuvent penser de leurs autorités. On sent que c'est des gens qui en ont gros sur la patate et à minima, il y en a un d'entre eux qui a dit tout ce que je veux, c'est retourner dans ma famille et qu'on me laisse tranquille. Qu'on me laisse tranquille. Donc l'idée que ces gens ont été en fait aspirés par le vent de l'histoire et précipités dans une situation qui les dépasse complètement pour la plupart.
Cette visite dans le Donbass a également été l'occasion d'aborder l'épineux sujet, symbole justement de l'immoralité de ce qui s'est passé dans cette région, des crimes de guerre occultés avec les services d'investigation militaire. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus et quels sont les résultats de leur recherche? Et y a-t-il des gens ou des coupables qui ont été déjà présentés à la justice russe?
Ah oui, on a eu l'occasion de visiter ce qu'on appelle le comité d'enquête militaire de la région ou de la République de Lugansk. On a été les seuls à les voir. Il n'y a aucun journaliste occidental qui a mis les pieds là-bas et qui est allé s'informer ou même simplement observer qu'effectivement, il y a quand même pas mal de fragments d'IMARS et de Javelin. Qui ont été retrouvés
Près Storm Shadows aussi.
Des Storm Shadows. Mmh. Et par ailleurs, ils nous ont signalé que non seulement ils n'ont jamais vu de journaliste occidental, mais qu'en plus l'OSCE a refusé de travailler avec eux. Mmh. Donc les gens qui étaient au plus près du terrain et qui ont été là pour constater.
Et dont c'était la mission.
C'était la mission, oui, de constater les crimes de guerre.
Les agents de l'OSCE. Voilà,
n'ont jamais éveillé l'intérêt ni des journalistes, ni de l'OSCE. Mmh. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Et bien sûr que c'est une situation un peu embarrassante. La France a été le premier pays, je crois, à livrer des armes à l'Ukraine. Ce qui en droit international, je pense que Arnaud le confirmera, en droit international, celui qui fournit les armes est responsable de leur usage. Donc s'il y a eu des crimes de guerre, la France n'est pas forcément en bonne position.
Voilà. Oui, j'ajouterais que Thierry a mentionné effectivement le travail entre guillemets de l'OSCE, mais il y a aussi effectivement les crimes de guerre d'ordre plus classique, où des gens sous couvert d'uniforme s'en prennent à des civils, tantôt en mitraillant des gens qui essayent de s'enfuir d'une zone, tantôt en mitraillant des infrastructures civiles, où on ne peut qu'imaginer que les gens seront blessés, voire pire. C'est quelque chose que le président de la République de Lugansk nous a aussi bien souligné, que des procès allaient être tenus. Hein. On a vu déjà des procès avoir eu lieu à Donetsk, mais bon, ce sont des informations sensibles de toute façon. Donc on apprend au fur et à mesure que les procédures ont lieu, que telle ou telle personne a été condamnée pour avoir commis telle ou telle action. Mmh. En général, après les faits, pour des raisons de sécurité, à mon avis aussi, pour des raisons aussi de confidentialité pour des raisons aussi de renseignement, je pense. Mais on peut parfaitement imaginer qu'à Lugansk, les mêmes processus, mêmes procédures ont lieu, et que petit à petit, en coordination avec les services d'enquête de la Fédération de Russie, tous les individus qui se sont rendus responsables pénalement d'exactions sur les civils seront amenés à rendre des comptes. Mmh. Donc, c'est en parallèle avec la reconstruction.
Hein. Oui. Mais cette question-là, moi, elle me semble un peu, quand même, très importante, parce que le narratif, justement, de la presse mainstream otanesque et anglo-saxonne disait, justement, pour justifier le rapport leur soutien, et d'ailleurs depuis 2014 au régime de Kiev, que cette histoire-là de mouvements néo-nazis dotés d'idéologies qui commettaient des crimes était quelque chose de minime, d'isolé, et ça n'a pas vraiment l'ampleur qui pourrait susciter l'impact et qui pourrait appeler les Occidentaux à se dire que nous soutenons un mouvement que normalement nous sommes censés avoir combattu entre 39 et 45. Alors, est-ce que les gens vous ont raconté justement leur rencontre avec ces militants néo-nazis? Est-ce qu'ils vous ont fait part justement d'actes de barbarie ou de torture?
On n'a pas eu l'occasion de faire un micro-trottoir, mais on a visité un cimetière où effectivement plusieurs centaines de personnes avaient été dans un premier temps, dont la dépouille avait été jetée dans un premier temps dans une fosse commune. Mmh. C'était l'été 2014, donc là, il faisait très chaud, et ouais, les gens étaient systématiquement abattus,
par les gens de
bataillons de représailles, voilà, donc les néo-nazis, là, en l'occurrence. Et ce qui ressortait, c'est qu'à un moment donné, il y a une séquence où des volontaires sont parvenus à abattre pas mal de ces meurtriers. Et les villageois, malgré la puanteur des cadavres, ne voulaient pas, ne serait-ce que les enterrer, leur donner une sépulture. Que c'est après, je crois, que...
C'était à Metelkino, oui, ouais. Effectivement. Ils avaient bombardé un centre d'équithérapie pour autistes. Et ils l'ont brûlé deux fois. Donc c'était un crime de guerre caractérisé. Pour en revenir à ce mémorial dans le Donbass, c'est pas loin de Lugansk, il me semble. Mm-hmm. C'est ça. Il y a donc un cimetière qui a été construit autour d'une statue mémorielle. Et on constate toutes les victimes n'ont pas été identifiées, mm-hmm. mais on constate sur les pierres tombales de ceux qui ont été identifiés qu'il y a beaucoup de personnes âgées et d'enfants. Donc ce sont réellement des victimes d'actes terroristes. Mm-hmm. Et on peut noter quand même aussi que ces actes ont tendance à se multiplier, puisque les espoirs de percée ukrainienne du front se sont évanouis, et que donc ils se vengent sur la population civile, d'une part, et puis d'autre part, je pense qu'ils veulent essayer aussi de provoquer une réaction extrême des Russes, pour pouvoir les désigner comme des criminels eux-mêmes, ce qui ne se produit pas. Mais enfin, la tendance générale maintenant est quand même à la multiplication de l'intimidation, du terrorisme et des frappes aveugles sur les civils. C'est un peu préoccupant.
D'accord. Et ça continue jusqu'à maintenant ?
Oui,
ouais. Bien sûr.
Ah oui, on a vu la boulangerie à Lysychansk.
Oui.
Ah oui. 30 morts. Et c'était des gens qui avaient l'habitude de fréquenter le lieu tous les jours pour soit sur le chemin du travail ou voilà, c'était vraiment un lieu de convivialité, donc aucune valeur militaire, quoi qu'on puisse en dire. Et donc oui, je suis d'accord avec Thierry. Alors effectivement, cette politique d'attaque aveugle sur les civils, elle existe depuis maintenant 10 ans, depuis le soulèvement,
2014,
voilà, depuis le déploiement des bataillons de représailles, mais dans le contexte actuel, effectivement, il s'agit de se venger, en fait. Je pense que c'est par frustration que Kiev permet ce genre d'exaction, mais aussi ça révèle une chose assez claire, c'est que, alors même qu'on nie l'existence du néo-nazisme parmi la clique de Kiev, on s'aperçoit que, au travers de ce genre d'exactions, que ces gens, enfin les gens de Kiev, n'ont absolument aucun respect pour la vie des civils du Donbass. Donc quand ils disent il faut réaffirmer l'intégrité territoriale de l'Ukraine, entre guillemets, s'ils pouvaient récupérer les territoires mais sans leurs habitants, en fait, ce serait
bien.
Ah oui, voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent, en fait, le fait qu'ils ont compris que ce sont des zones, des régions très riches, mm-hmm. et que, mais voilà, mais s'ils pouvaient les récupérer mais sans leurs habitants, voilà.
C'est un peu ce qui se passe actuellement à Gaza.
Exactement. Quand on leur dit Gaza. Allez en Jordanie, vous êtes voilà, mais allez en Jordanie, vous êtes jordanien, allez en Jordanie. Bon, mais là c'est pareil, allez en Russie, c'est ce qu'on leur dit.
Oui.
Mais non, les gens, c'est leur terre, ils vont pas aller. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est tout à fait ça.
D'accord. Bien. Alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on pose un peu quelques questions qu'on discute un peu du changement au niveau de la géopolitique mondiale depuis le début de l'opération spéciale russe militaire en Ukraine. Alors, bien au-delà de l'échec de la contre-offensive, donc les médias occidentaux
se
sont fait...
La fameuse contre-offensive, oui.
Hein?
La fameuse contre-offensive.
La fameuse, oui, la fameuse. Donc les médias occidentaux se sont fait les porte-drapeaux. Le fait que l'opération spéciale militaire russe en Ukraine a définitivement fait
évoluer, et là je vous demande votre avis, fait évoluer les alliances mondiales vers un monde plus multilatéral, fait dire à beaucoup d'observateurs, y compris occidentaux, que la Russie, peut-être dont vous faites partie, que la Russie a déjà bel et bien gagné la guerre. Et en effet, la bascule géopolitique de nature systémique et l'émergence d'un monde alternatif avec la montée de en puissance des BRICS et de l'organisation de coopération de Shanghai, en est justement la première conséquence. Alors, qu'en pensez-vous ? Cette réorganisation de l'ordre géopolitique ne constitue-t-il pas le vrai centre justement de gravité du conflit en Ukraine ? Et on peut rajouter dernièrement à Gaza.
Puisque vous parlez de centre de gravité, j'ai envie de dire que l'axe du monde est en train de basculer, effectivement. C'est un peu prématuré de dire que la Russie a gagné la guerre, mais il est évident que l'Occident est en train de la perdre et que les médias font tout pour le cacher. C'est une défaite que l'Occident ne peut pas se permettre, parce qu'ils ont déjà perdu, en Syrie. Ils sont en train de perdre en Ukraine. Et effectivement, maintenant, il y a la question de Gaza. Ils ne peuvent pas se permettre, là, cette fois, de prendre un nouveau râteau. Donc, le jeu, en fait, c'est aussi de maintenir les populations sous tension. Parce que sinon, il y a un risque de révolte. Dans les pays occidentaux, on voit que ça se passe très mal aux États-Unis et ça se passe encore plus mal d'un point de vue économique, peut-être, en Europe occidentale. Voilà. Donc, je pense que tout est une question de tenter de contrôler l'opinion occidentale. Mmh. Mais que la guerre soit en train d'être perdue, c'est assez exact. Oui. Oui. Mmh.
Maître Develay.
Oui, bah je dirais que effectivement la démilitarisation et la dénazification avance, mais je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Ce qu'il faut regarder, c'est la situation telle qu'elle était au 24 février et la situation telle qu'elle est maintenant par rapport aux objectifs et par rapport surtout à la perception dans la communauté internationale, que ce soit au niveau des gouvernements, c'est que en fait la Russie a complètement rebattu les cartes. Elle est maintenant en charge de la présidence du BRICS, donc on peut un BRICS maintenant qui est passé de 5 à 10, ça devait être 11. Bon, on a eu une annulation de dernière minute avec l'Argentine. Mais aussi, on a vu des déclarations au plus haut niveau officiel émanant de la République populaire de Chine, qui, pour la première fois, officiellement soutient la Russie dans l'opération militaire spéciale. Donc ça, c'est quand même un jalon assez important. On a vu aussi, au travers de plusieurs résolutions introduites à l'Assemblée générale, qu'au départ, il était question d'essayer de faire condamner la Russie par cette Assemblée générale. Et au fur et à mesure, non seulement les tentatives ont échoué, mais de plus en plus de pays, maintenant, considèrent que ce n'est pas du tout la priorité et que, si je puis dire, la Russie a vocation à, percevoir la situation de manière qui ne soit pas forcément celle que le narratif occidental essaye d'imposer. Et donc, à minima, une grande majorité des États du monde sont neutres sur cette question. Alors qu'on a essayé depuis le début, on a mis le paquet pour essayer d'imposer un narratif où effectivement la Russie était l'agresseur. Donc ça, c'est une grande victoire, parce que c'est quelque chose qui a à voir avec la perception, avec la perception des événements. Et on a pu voir aussi que, à travers des actions tendant sur, par exemple, les prêts en Afrique ou la livraison de grains à certains pays africains, que la Russie est de prendre de plus en plus de poids dans des zones géographiques où elle n'était pas forcément connue pour avoir une présence, qu'elle est capable aussi de coordonner avec ses alliés en Asie occidentale pour le moment venu, on l'espère le plus vite possible, s'imposer comme une alternative pour ramener la paix dans la région. Parce que pour l'instant, c'est quand même assez inquiétant ce qui se passe. Les Américains font tout pour essayer d'embraser la région parce qu'ils sentent qu'ils sont rejetés vraiment de manière prononcée. Et en cela, voilà, il y a donc beaucoup d'actions diplomatiques derrière le rideau, j'allais dire derrière la scène. Et d'ailleurs, on verra aussi des exercices maritimes avoir lieu avec la Chine et l'Iran dans quelques semaines. Ce qui laisse entendre que la Russie, non seulement n'est pas isolée, n'est pas de dos au mur, mais au contraire, après avoir absorbé dans un premier temps les trains de sanctions qui, rappelons-le, sont le nombre de sanctions le plus élevé jamais infligé à un pays en temps de paix, puisque tous les pays responsables de ces sanctions ne sont pas techniquement en guerre avec la Russie. Mais bon, la Russie...
Au moins d'une manière indirecte.
Au moins, oui, on s'entend. Mais la Russie a su rebondir de cette situation et en fait complètement réapprovisionner ses marchés et ce faisant échapper à cette espèce de piège. Et alors que les Européens se sont eux-mêmes tiré une balle dans le pied, de telle sorte que leurs économies, maintenant, ne peuvent plus fonctionner correctement parce qu'ils n'ont plus accès à des sources énergétiques à bon marché. Donc,
Et les États-Unis viennent, qui ont soutenu justement les sanctions pour couper le gaz et saboter les Nord Stream 1 et 2 pour couper les gaz qui étaient vendus par la Russie à l'Europe. Et qui ont promis aux Européens de les fournir avec leur gaz liquéfié, ils viennent de prendre la décision d'arrêter la construction de plusieurs projets de terminaux pour regazifier. C'est le coup de grâce.
Oui, et puis en plus, il faut punir les Texans. Et donc, couper les exportations de GNL texan. Donc, il y a une contradiction interne absolue entre ce qu'ils veulent infliger, ce que Biden veut infliger aux Texans qui sont eux aussi au bord de l'insurrection, et ce qu'il veut infliger aux Européens en vendant le GNL. Il y a une contradiction manifeste. D'une manière générale, il y a quand même. On peut voir une certaine des évolutions un peu paradoxales. On a Sergueï Lavrov a parlé d'une puissance européenne une grande puissance européenne qui avait des intérêts en Afrique et qui négociait en coulisses son petit précaré avec les Russes sans la nommer. J'espère qu'il s'agit du Portugal. Et dans le même temps, on a le sentiment d'une montée aux extrêmes, d'une fuite en avant, puisque on a des chefs militaires de l'OTAN qui parlent d'un affrontement total avec la Russie, d'une mobilisation de la jeunesse européenne pour une guerre cataclysmique, de provisions d'eau. On a aussi le Bild-Zeitung qui sort les plans secrets de la guerre allemande contre une sorte de Barbarossa 2.0 contre la Russie. Bref, tout ça est un peu paradoxal, mais je pense que cette agitation-là, encore une fois, c'est juste pour maintenir les populations sous tension,
voilà.
Pour éviter
une sorte
pour justifier aussi d'ailleurs l'état catastrophique de l'économie. C'est une stratégie de la tension, effectivement.
La tension médiatique.
C'est ça. Oui, oui.
Alors, avant de finir cette émission, c'est très intéressant ce que vous venez de développer. J'aime bien vous poser une question sur un fait que personne n'aurait pu, quelques années en arrière, aurait pu imaginer. Hein, un petit pays qui est le pays le plus pauvre de la planète est en train d'infliger des gifles à la marine américaine dans la mer Rouge et a fermé le détroit de Bab el-Mandeb, qui était l'un des goulets d'étranglement les plus importants pour les lignes d'approvisionnement en énergie et au commerce international. Et ça, en plus, c'est-à-dire de l'autre côté de la gifle, que le paravent politico-militaire de l'Occident, en particulier des Américains, Israël, est en train encore de subir face à la résistance palestinienne. Est-ce que ça, justement, n'est pas le signe absolument tangible que ce monde a changé et que cette puissance impériale, en particulier maritime occidentale, est complètement en déconfiture. Est-ce que peut-on dire que Sykes Picot, qui a fait partager donc, la région du Moyen-Orient dans les puissances occidentales, est mort avec ce qui se passe actuellement.
Bah oui, on a Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, qui parle d'une mondialisation entre amis. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le précaré occidental qui essaye de se survivre et qui probablement n'y arrivera pas. Mais sur le Moyen-Orient, je laisse la parole à Arnaud. Il est infiniment plus qualifié que moi pour en parler.
Je pense que, eu égard à la conversation qu'on a pu avoir aujourd'hui, cette situation à Bab al-Mandeb, c'est quelque part l'extension d'un front unique qui va des confins de la Russie occidentale maintenant, jusqu'au détroit des larmes, jusqu'à la porte des larmes, puisque c'est ce que veut dire Bab al-Mandeb, et que le long de cet axe, tout est en train d'être restructuré. Et que vous avez tout à fait raison lorsque vous dites que Sykes-Picot est en train de disparaître devant nos yeux. Alors effectivement, c'est intéressant parce que il y a en fait deux camps au sein de l'Asie occidentale qui semblent, je dirais pas s'opposer, mais avoir une approche plus ou moins nuancée, différente par rapport à l'idée fondamentale qui consiste à expulser les Américains de la région, c'est celle des pays de la résistance, hein, donc la résistance yéménite, la résistance libanaise, la résistance irakienne, l'armée arabe syrienne, et bien sûr l'Iran. D'un côté, et de l'autre, des puissances, plutôt des monarchies du golfiennes, avec la Jordanie et l'Égypte, qui sont plus, qui tempèrent un peu plus. Mais bon, le fait que les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite aient rejoint les BRICS, c'est déjà quelque part, et l'Égypte, si je ne m'abuse.
Oh, oui. Ouais,
c'est voilà. Donc c'est déjà quelque part, la réponse est dans la question. Ces trois pays-là, alors, ne sont pas forcément aussi ouverts dans leur positionnement sur l'expulsion des États-Unis de la région, mais ils ont bien compris en sous-main que le centre de gravité du monde avait bougé et qu'il fallait commencer à se réaligner dans les bons groupements géopolitiques.
Et ce qui est confirmé d'ailleurs par la dédollarisation rampante de l'économie mondiale.
Ouais. Hein,
c'est-à-dire que le dollar qui était quand même appuyé en ultima ratio sur la puissance de l'armée américaine ne fait plus peur à personne.
Voilà.
Voilà, c'est des évolutions tectoniques.
Ouais. Voilà. Un dernier mot, Maître Develay, par rapport à ça.
Oui, c'est qu'effectivement l'éléphant au milieu du salon, c'est cette dédollarisation qui, à un moment donné, va complètement rabattre les cartes en coordination avec le taux d'endettement des États-Unis qui dépasse les
100 000 milliards de dollars.
Hein. Et donc, à un moment donné, je crois que la Fed va s'arrêter, tout simplement. On peut espérer que c'est comme ça que ça va se passer, en tout cas. Il faut juste gérer la période entre maintenant et l'officialisation du fait qu'ils n'ont plus les moyens de se projeter militairement à raison de 800, on pourrait même dire 1000 bases. Je pense qu'il y en a 1000
bases, ouais.
Ouais, si on prend en compte les endroits qui ne sont pas déclarés. Mmh. Donc, à un moment donné, il va falloir que tout ça s'arrête et qui rapatrient leurs hommes, leur équipement. Et je pense que ce moment-là est plus proche qu'on ne le croit.
Et il appartiendra aux Européens et aux Russes de bâtir enfin cette maison commune de Dublin à Vladivostok, qui va faire tellement de peine aux grands frères américains.
D'accord. Bah, espérons-le bien. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin.
Thierry Todinor, maître Arnaud Develay, je vous remercie pour ce témoignage et pour tous ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci à vous.
Merci.
C'était Thierry Todinor, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant, et maître Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.